8h sur France Culture. Bon réveil si vous nous rejoignez, voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pas moins de 3 naufrages meurtriers en une semaine en Méditerranée. Avec l'arrivée de l'été, les candidats à l'exil sont de plus en plus nombreux à prendre la mer au péril de leur vie.
Nous irons aussi en France où le camp de migrants de Grande-Synthe, ouvert par un MSF, va finalement être repris par l'État. Deux ministres se rendent sur place aujourd'hui.
Semaine sociale très agitée encore après les craintes de pénurie de carburant. Les actions syndicales menacent le rail et les airs. Nous nous demanderons quelle peut être la stratégie du gouvernement.
À l'étranger, le procès d'Hissène Habré se termine aujourd'hui. L'ancien président du Tchad comparaissait pour crimes contre l'humanité devant un tribunal spécial africain.
Et nous nous arrêterons à la fin de ce journal sur une vente aux enchères à Paris d'objets sacrés amérindiens. Les tribus tentent de contester ce qu'elles considèrent comme un sacrilège. En Méditerranée, le printemps est la saison des drames en série. Au cours de la semaine écoulée, près de 700 migrants auraient péri en mer dans les naufrages de leur embarcation de fortune. 700 vies perdues, un chiffre établi à partir des témoignages des rescapés, des survivants emmenés dans les Pouilles et en Sicile. Le récit de notre correspondante en Italie, Marie Duhamel.
Dans le canal de Sicile, des dizaines de navires patrouillent, prêts à intervenir pour secourir des barques sur le point de sombrer. L'accord signé mi-mars entre l'Union européenne et la Turquie n'a rien changé au drame de la Méditerranée. S'il y a bien des Syriens, ce sont essentiellement des Érythréens, Nigériens, Somaliens qui osent traverser, mais aussi quelques Pakistanais, Sénégalais et Marocains. Comme chaque année, les départs de Libye se font par vagues, dès le mois de mai. Et si celle de la semaine dernière est impressionnante, pour l'instant, le nombre d'arrivées est semblable à celui de l'an passé, voire légèrement inférieur, 44 000 migrants contre 47 400 secourus à la fin mai 2015. En mars dernier, l'Italie, qui héberge 120 000 migrants dans ses centres d'accueil, a validé l'accord entre Ankara et Bruxelles. Tout pour sauver des vies, affirmait Matteo Renzi. Mais à l'approche de l'été, alors qu'on compte déjà près de 2 000 morts noyés depuis janvier, le gouvernement italien réclame un accord et vite avec la Libye. L'idée est simple, empêcher les départs depuis Tripoli.
Et c'est plus rare, mais certains candidats à l'exil tentent aussi la voie maritime pour passer de la France à l'Angleterre. Ce week-end, 20 personnes ont été secourues au large des côtes britanniques, dont 18 Albanais. Leur bateau pneumatique était en train de sombrer. Et sur la côte française, c'est au camp de Grande-Synthe que deux ministres sont attendus aujourd'hui. Bernard Cazeneuve pour l'intérieur, Emmanuel Cosse pour le logement. Ils doivent confirmer l'engagement de l'État pour gérer le camp de migrants, un camp dont ne voulaient pas entendre parler les pouvoirs publics et construit il y a 2 mois et demi par Médecins sans frontières. Aujourd'hui, MSF se retrouve à court de financement, alors l'État va mettre la main à la poche et changer plusieurs choses, Mathilde Dehimi.
Depuis son ouverture, des centaines de bénévoles se relaient pour gérer le camp. Place désormais aux salariés de l'association locale AFEJI. La professionnalisation, c'était l'une des exigences de l'État pour subventionner la gestion à hauteur de 4 millions d'euros par an. Il y aura également un renforcement de la promotion de l'asile et des centres d'accueil et d'orientation. Objectif premier, réduire le camp pour mieux le fermer. Et c'est là que la philosophie diverge entre l'État d'un côté, la mairie et Médecins sans frontières de l'autre. Tous sont d'accord pour démonter les cabanes au gré des départs, mais pas en fermant la porte aux nouveaux arrivants, ni en pressant les migrants déjà sur place de partir, prévient Franck Esnay de MSF.
La question maintenant, c'est comment ça va être géré? Quelle politique le gestionnaire va adopter et appliquer? Médecins sans frontières, on restera ferme sur le fait qu'on n'en peut plus de l'ultra-sécuritaire et on veut effectivement développer à l'intérieur de ce camp une gestion sociale qui permettra la diminution de stress, qui permettra aux personnes de vivre mieux.
Il n'y a pas de date officielle prévue de fermeture. Elle se fera en fonction des flux, dit-on Place Beauvau. Le camp de Grande-Synthe n'a pas provoqué d'appel d'air. Le nombre de migrants, 750 actuellement, est en constante diminution.
Mathilde Dehimi. Le gouvernement également mobilisé cette semaine encore sur le front social. Le compte à rebours a commencé 10 jours avant l'Euro de foot, 10 jours pour désamorcer les blocages et faire lever les piquets de grève. Mais les syndicats ne l'entendent pas ainsi. Après les raffineries et les dépôts de carburant, ils élargissent la contestation au transport, au rail et aux airs. Comment s'annonce la semaine? Les précisions d'abord de Laurent Kramer.
À la SNCF, la CFDT et l'UNSA rejoignent la CGT pour une grève reconductible dès demain 19h. Le mouvement porte sur les négociations de la nouvelle convention collective des salariés du rail. La CFDT, l'UNSA et la CGT font donc front commun à la SNCF. À la RATP, une grève illimitée démarre jeudi à l'initiative de la CGT. Avec de fortes perturbations annoncées, le mouvement pourrait s'amplifier la semaine prochaine avec l'arrivée de Sud le 10 juin prochain dans cette grève illimitée à la RATP. Du côté des transports, transport aérien, l'ensemble des syndicats représentatifs de l'aviation civile appellent à une grève de 3 jours dès vendredi pour tout le week-end. Un préavis qui pourra néanmoins être levé, précise l'aviation civile, en cas d'avancée significative demain dans une ultime réunion de négociation.
Une semaine encore difficile donc pour le gouvernement. Alors a-t-il un plan pour sortir de la crise, une stratégie, des éléments avec Julie-Marie Lecomte?
À la question « Et maintenant on fait quoi ?», un conseiller du président répond sans doute un peu légèrement « On ne fait rien, on débloque les raffineries, on assure l'ordre public pendant les manifestations et on tient bon, on ne rentre dans aucun chantage. S'il y a un conflit pendant l'euro, il y aura un conflit pendant l'euro. » Les débrayages annoncés cette semaine semblent moins inquiéter l'Élysée que les scènes d'affolement à la pompe les jours passés. Les grèves dans les transports seraient récurrentes et donc moins spectaculaires et traumatisantes. Logique du pourrissement donc, fondée sur un argument, la mobilisation par exemple à la SNCF ou dans le secteur aérien s'appuierait sur des revendications sectorielles, ce qui grossirait les rangs, qu'elles disparaissent et le mouvement deviendrait ultra-minoritaire. Le gouvernement mise-t-il sur le corporatisme pour affaiblir les manifestants? À Matignon, on répond que la théorie du troc, des concessions latérales contre du lest sur la loi travail, est peut-être séduisante sur le papier, mais qu'elle ne correspond pas à la réalité. On reconnaît toutefois suivre de près, mais comme toujours, les discussions internes aux entreprises.
Miser sur le succès des négociations internes à la SNCF, à la RATP ou avec les intermittents. Les discussions reprennent justement aujourd'hui sur le régime d'assurance chômage des professionnels du spectacle. Un accord a été trouvé il y a un mois entre les intermittents et leurs employeurs. Cet accord doit être soumis aux partenaires sociaux aujourd'hui, Anne-Laure Choix.
Un accord en forme de victoire pour la CGT Spectacle qui a finalement obtenu la réforme du calcul des droits qu'elle réclamait depuis plus de 10 ans. En résumé, les intermittents, si cet accord est validé, auront désormais 12 mois et non plus 10 pour effectuer leurs 507 heures, ouvrant droit à allocation. Les droits des femmes enceintes et des malades longue durée sont également améliorés. En contrepartie, le plafond mensuel d'allocation est abaissé, lui, de 20%. Et un délai de carence lié au congé payé est instauré. Par ailleurs, la cotisation patronale des employeurs serait augmenté de 1%. Le tout dégagerait, selon un comité d'experts qui a rendu ses conclusions la semaine dernière, entre 84 et 93 millions d'euros d'économies, pas si loin finalement des 105 millions d'euros réclamés par le MEDEF dans une lettre de 4 pages rendue publique en mars dernier. Ce comité d'experts, composé notamment de personnels de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des affaires sociales et de sociologues, avait été mis en place par Matignon pour suivre les négociations et fournir des chiffrages, un suivi qui permet à cet accord d'arriver devant le MEDEF avec des chances sérieuses d'être adopté, d'autant que les intermittents ont mis la pression sur le gouvernement en menaçant, si ce n'est pas le cas, de perturber les festivals qui arrivent, pression que le gouvernement s'est empressé de reporter sur le MEDEF, dont les demandes d'économie sur le régime des intermittents avaient été qualifiées à l'époque de démesurées par la ministre de la Culture elle-même.
Et la contestation a donné lieu à des violences en marge des manifestations ces dernières semaines. Un cinquième suspect a été mis en examen et écroué dans l'enquête sur l'attaque et l'incendie d'une voiture de police. Deux agents se trouvaient à l'intérieur, c'était le 18 mai dernier à Paris. Ce cinquième suspect est un Américain âgé de 27 ans. Comme les quatre autres, il devra répondre de tentatives d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un autre suspect a été placé en détention provisoire et trois ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Aux grandes dames des syndicats de police. Justice encore et cette photo du djihadisme à la française devant le tribunal correctionnel de Paris. Le frère d'un des terroristes du Bataclan et 6 autres Alsaciens sont jugés à partir de cet après-midi. Ils étaient partis en Syrie en décembre 2013 et rentrés quelques semaines plus tard sans Foued Mohamed Agad. Ce dernier sera identifié en novembre comme l'un des tueurs du Bataclan. Ses anciens camarades risquent aujourd'hui jusqu'à 10 ans de prison, Sarah Guibaudot.
Ils sont arrivés à 10 grâce à Mourad Fares, l'un des principaux recruteurs français. 2 semaines d'entraînement près d'Alep, sport, prière, maniement des armes. Puis le groupe État islamique leur demande de prêter allégeance dans un arabe que la plupart ne comprennent pas. 2 frères de Strasbourg tombent rapidement dans une embuscade. La guerre fait rage entre les opposants de Bachar el-Assad. Leur recruteur est d'ailleurs en rupture avec Daesh. Au bout de quelques semaines, les Strasbourgeois veulent rentrer au moins pour voir leur famille. Seul Foued, 20 ans, est fraîchement complètement radicalisés, se trouvent très bien en Syrie. On mange, on s'entraîne, on combat les koufars, raconte-t-il à son père. De toute façon, écrit-il, si je rentre en France, c'est pas pour aller en prison, c'est pour tout exploser. Il fait vite venir une jeune Française rencontrée sur Internet. Quand il a besoin d'argent, il demande à son frère de braquer des mécréants. Mais son frère et ses amis sont interpellés peu après. En prison, Karim Mohamed Agad n'a rien renié de ses convictions radicales. Le tribunal ne manquera pas de l'interroger sur les attentats de Paris.
8h10 sur France Culture, la suite du journal Amélie Perry. On attend aujourd'hui le verdict d'un procès historique en Afrique.
Le procès d'Hissène Habré, l'ancien président du Tchad, comparé pour crime contre l'humanité quand il dirigeait le pays entre 82 et 90. Des dizaines de milliers d'opposants ont disparu dans les geôles du régime. Procès historique aussi car la justice sera rendue par un tribunal spécial africain installé au Sénégal, à Dakar, et présidé par un magistrat burkinabé, une juridiction dont n'a jamais voulu entendre parler Hissène Habré. Olivier Poujade.
Le 20 juillet 2015, Hissène Habré est transporté manu militari dans la salle d'audience du tribunal de Dakar. L'ancien chef d'État tchadien se débat, il crie, proteste contre l'ouverture de ce procès, puis il se terre dans un silence total. Plus un seul mot, y compris à ses trois avocats commis d'office. Ceux qu'il avait engagés ne participeront pas au procès. Une stratégie qui risque de coûter cher à celui qui, au cœur des années 80, incarne la quintessence du guerrier du désert. Selon une note des services secrets américains, les États-Unis, la France, ses anciens alliés lui ont depuis longtemps tourné le dos. Hissène Habré doit aujourd'hui assumer seul la répression sanglante qu'il a menée contre son peuple. Entre 1982 et 1990, détentions arbitraires, tortures, exécutions, 40 000 personnes auraient été victimes de sa police politique. Contraint de quitter N'Djamena au milieu d'une nuit de novembre 1990 sous la menace des rebelles de l'actuel président tchadien Idriss Déby, Hissène Habré commet alors sa première erreur, trouver refuge au Sénégal, l'un des premiers États africains à avoir ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture.
Le Mali, de nouveau la cible des terroristes. 5 casques bleus de la MINUSMA ont été tués hier dans une embuscade dans le centre du pays. Il s'agirait de soldats togolais. Déjà vendredi dernier, 5 militaires maliens avaient été abattus dans le nord-est du pays. L'attaque avait été revendiquée par Ansar Dine, un groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda. La lutte contre les djihadistes de Daesh, cette fois en Irak. L'armée nous apprend ce matin que les forces d'élite irakiennes entrent dans Fallujah. La bataille a été lancée il y a une semaine pour déloger les terroristes. Fallujah avait été, il y a 2 ans et demi, la première cité à tomber aux mains de l'État islamique. Elle avait permis au groupe de s'emparer de vastes régions d'Irak, dont Mossoul, la deuxième ville du pays, toujours contrôlée par Daesh. Et on l'a vu avec Daesh, une autre arme de la guerre, c'est la destruction et le pillage du patrimoine. Un pillage dénoncé aujourd'hui aussi par des tribus indiennes aux États-Unis. Elles dénoncent la tenue d'une vente aux enchères, aujourd'hui à Paris, par la maison Ève, une vente considérée comme sacrilège. Des masses ont déjà été adjugés à plus de 500 000 euros, des pièces rares donc, recherchées par les collectionneurs. Les Amérindiens, eux, dénoncent un commerce d'objets sacrés immoral et illégal. C'est la correspondance à Washington de Frédéric Carbone.
La prière qui résonne dans le musée indien américain de Washington est en fait un cri de colère. Dans ce lieu symbolique, il s'agit une fois de plus de dénoncer ces ventes aux enchères. Tout le monde s'émeut du saccage de Palmyre en Syrie, lance ainsi le gouverneur de la tribu Akoma. Mais ici, c'est la même chose, le même manque de respect pour notre civilisation. Et Kurt Riley rappelle la signification de ces objets. Ces emblèmes Akoma sont sacrés. Et aucun individu ne peut prétendre les posséder. Ils n'ont pas de valeur commerciale ni artistique et il est absolument interdit de les arracher à notre peuple. Le parcours de ces centaines de statues, masques et emblèmes résume le sort réservé au peuple indien, le massacre et la spoliation il y a un siècle et demi au temps de la ruée vers l'or, la négation de l'histoire aujourd'hui. Un chef de tribu explique qu'il a le cœur brisé quand il voit ces objets sur Internet. Et pour le directeur du musée indien américain, même la date choisie est contestable. Que cette vente ait lieu au moment de la fête de Memorial Day est une insulte. Aujourd'hui, en effet, on célèbre les Américains morts sur tous les champs de bataille. Et Kevin Gover rappelle qu'il y avait aussi des Indiens sur les plages du débarquement.
Frédéric Carbone à Washington. Et l'on a appris hier la mort d'André Rousselet, fidèle de François Mitterrand. Il sera l'un des premiers au courant de l'existence de sa double vie et de Mazarine Pinjot. Il a également marqué le monde des entreprises en fondant la compagnie de taxi G7 ou encore en créant la chaîne de télé Canal+, en 84 avec le soutien du président Mitterrand. Il en sera débarqué 10 ans après et accusera Édouard Balladur de l'avoir évincé. Le parcours d'André Rousselet, on en reparle, Guillaume Erner, avec votre invité ?
Absolument, je serai en compagnie de Jacques Attali vers 8h40 pour évoquer le décès donc d'André Rousselet, qui était fondateur de Canal+, vous l'avez dit, qui était également proche de François Mitterrand et qui avait été directeur de cabinet de François Mitterrand en 1981.
Un mot du temps de ce lundi, de la pluie sur une grande partie du pays encore. Les régions méditerranéennes auront plus de chances avec davantage de soleil et les pieds au sec. Les minimales sont comprises ce matin entre 9 et 15 degrés. Cet après-midi, on attend 16 à Paris et à Calais, 17 degrés à Nancy, 18 à La Rochelle, 21 degrés à Grenoble, 23 à Nice et 25 à Montpellier.